La parole des contes avec Anne Wong.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue au pays des contes. Vous souvenez-vous la dernière fois du barbier et de son esclave? Le barbier marouf à la belle voix de ténor qui chantait à tue-tête pour avoir bu beaucoup de vin qu'il aimait tant dans quelques tavernes, et il rentrait chez lui en titubant et en chantant comme il était critique et râleur. Nous verrons un autre barbier râleur. Et lui, marouf, le barbier chantait à tue-tête un chant improvisé dans la rue où il comparait le calife Haroun al-Rachid à un singe que le vizir faisait danser à sa guise. Or, en ce temps-là, le calife Haroun al-Rachid avait coutume de sortir la nuit incognito, déguisé en marchand, en artisan. C'était la nuit. Il ne pouvait discerner leur visage. Et le calife révèle son identité avec habileté. « Qui es-tu, homme à la belle voix et à la parole audacieuse ?»« Je suis Marouf, le cordonnier. » »« Et moi, je suis le calife Haroun al-Rachid que tu compares à un singe. Je t'attends demain à 10 heures dans mon palais. » Marouf le cordonnier dessoula aussitôt et pleura dans les bras de son esclave. Lorsqu'il arriva en sa maison, et son esclave lui dit « Ne t'inquiète pas, tu dis que vous n'avez pas vu vos visages distinctement. Demain, j'irai au palais à ta place. » Et le lendemain matin, habillé des vêtements de son maître, l'esclave se présenta devant le grand calife. La colère de Haroun al-Rachid s'était apaisée durant la nuit. Il lui dit « Je vais te donner une chance pour sauver ta tête. Je te poserai 3 questions. Si tu sais y répondre, tu pourras partir libre. Et sinon, ta tête sera coupée ce matin même. » « Je suis prêt, » dit l'esclave déguisé en barbier. « Dis-moi, combien de temps faut-il pour traverser la terre d'est en ouest ?»«
Une journée, » répondit l'esclave. « Le soleil traverse la terre d'est en ouest en une journée.
« Oui, cette question était facile, » dit le calife en souriant. « Maintenant, dis-moi quelles sont les 2 bêtes les plus respectées chez nous, les musulmans ?»«
Ce sont la colombe et l'araignée, » répondit-il. Alors que le prophète Mohammed était poursuivi de près par ses ennemis dans la montagne, il se réfugia dans une grotte. Une araignée tissa à l'instant une toile qui couvrait toute l'entrée de la grotte, et une colombe se mit à couver ses œufs juste devant. En passant par là, peu de temps après, ses poursuivants se dirent « Il est impossible qu'il soit entré là-dedans, sinon la colombe se serait enfuie et la toile aurait été déchirée. » Et ils continuèrent leur chemin. Voilà comment l'araignée et la colombe ont sauvé le prophète, et voilà pourquoi on leur doit le respect.
Cette question n'était pas très difficile non plus. Mais il me reste une question à te poser, et ta vie dépendra de ta réponse. Dis-moi, « à quoi est-ce que je pense maintenant ?»«
Ah, prince des croyants, à l'instant où je te parle, tu penses que je suis Marouf, le barbier, et que tu vas me trancher la tête, mais en vérité, je ne suis que son esclave. » Et l'esclave raconta comment il avait pris la place de son maître.
Haroun al-Rachid appréciait les histoires où des personnes brillaient d'intelligence. Il s'émerveilla de cette histoire-ci et
ordonna à son trésorier de donner 1000 pièces d'or à l'esclave et de lui accorder sa liberté. Et voici une autre histoire de barbier. Il y avait une fois un barbier au coin de la Grand-Rue. Il n'y en avait pas d'autre en ce temps dans le bourg. Et le monde a besoin d'un barbier. On ne peut pas toujours se laisser pousser tout ce poil sur la figure. Un jour, un moine mendiant entra dans la boutique. « Barbier, me raseriez-vous pour l'amour du bon Dieu ?» Le barbier ne répond que d'un grognement. Sans affiler le rasoir, sans passer le savon, il se met à la besogne. La barbe, allez, et la tonsure, raclée, pelée, écorchée. Le moine filait des soupirs. Là-dessus, dehors, brusquement, des hurlements éclatent et l'on voit détaler un chien tout dégoûtant de sang sous les couteaux que lui lançait le boucher. « Ah, pauvre bête !» fit le moine, épongeant son propre sang qui ruisselait sur ses joues. « Toi aussi, on vient donc de te raser pour l'amour du bon Dieu !» Quand il voulait, le barbier rasait souplement, une main de velours. Mais quand voulait-il bien ? Barbifier, ce n'était jamais son moment. Il avait pris le pli de recevoir les pratiques en grommelant, en grondant. On le paye pourtant. Faut encore le prier. Le prier, oui. Et ce saint-là, raide comme un coq et mauvais comme un arsenic, n'accueillait pas toujours son monde. Souvent, il envoyait les pratiques au diable. Mais toi, barbier, prends-toi donc garde. Et si le diable, un de ces 4 lundis, venait soi-même te pratiquer ? Et un beau jour, plutôt un beau soir, il était là, au pas de la porte. Le barbier y mangeait sa soupe, l'écuelle au creux de la paume. Tout à coup, du bois sur la côte, il voit sortir quelque chose, quelqu'un, et qui descend au bourg. Il voit cela. Un homme fait comme le géant, enfroqué d'une peau de bique. Les cheveux sur les épaules, la barbe jusque-là, toute la mine d'un de ces hommes sauvages qui figurent avec leurs massues taillées en rondes bosses aux façades des maisons. L'homme vient droit à lui et sur le pavé faisait péter ses pieds comme les fers d'un âne de 7 ans. « Salut, barbier, rase-moi, je te prie. » Et l'homme, je ne rase plus ce soir. « Barbier, un écu pour ta peine. »« Je ne cours pas après ton écu. »« Mais barbier, ce poil m'embarrasse. Demain, je vais de noces. »« Et moi, ce soir, je mange ma soupe. »« tu manges ta soupe ? Eh bien, je vais te la faire manger. » L'homme lui arracha des mains l'écuelle, lui flanque cette soupe dans la face, puis l'empoignant par le collet et l'amenant dans le fauteuil de bois, il lui vide la cruche sur la tête. Après quoi, ouvrant un rasoir et sans passer de savon, il se met en devoir de le raser ou de l'écorcher. Il n'y regardait pas de si près. Barbe, cheveux, il racle tout. Le barbier, terrifié, osait à peine gémir. Et il n'aurait osé tousser quand l'autre lui fut avalé tout ce poil de cheveux et de barbe. Il sort de là plus saigneux que le malheureux moine rasé gratis jadis. Mais il n'a eu le loisir d'y penser. L'homme l'enlève du fauteuil comme il l'y avait plaqué, s'y installe à sa place.
Allez, barbier, je t'ai rasé, rase-moi maintenant. »
Il a fallu s'exécuter. Savonner cette barbe roide comme broussaille, large comme une pelle de four, abattre tout ce crin au ciseau, au rasoir, une joue, l'autre joue. Mais quelle sorcellerie ! À peine est-ce fini d'un côté que de l'autre l'ouvrage est à refaire. La joue gauche rasée, le temps de passer à la joue droite, de raser celle-ci, et le poil à repousser sur celle-là. Le barbier y revient, savonne et racle, de la droite à la gauche, de la gauche à la droite, 3 fois, 6 fois, 10 fois. Le poil repousse à vue d'œil, plus vite que le chanvre. Cette barbe monte, s'enfle, foisonne comme l'écume du lait quand le lait commence de bouillir. Le barbier en perd le sens. N'ai-je pas la berlue ? Mais sous son pouce, il sent bien ce poil aussi raide qu'un chaume, aussi crissant que paille de fer. Hébété par la fantasmagorie, il ne tient même plus sur ses jambes. Il a allumé le quintet, mais ces 36 chandelles qui lui dansent devant les yeux lui entrent dans la tête. « Allez, barbier, veux-tu me raser un bon coup ? Allez, barbier, à la fin des fins !» Et il faut y revenir, encore, toujours y revenir. 9 heures ont sonné depuis beau temps, et les 10, et les 11. Oh, s'il osait d'un grand trait de rasoir trancher le cou de l'homme ! Mais on n'y pourrait rien, ce cou repousserait comme ce poil repousse. C'est de la magie noire. Et à l'idée de ce que ferait de lui le personnage, alors le barbier se sent fondre comme suif de chandelle auprès d'une fournaise. « Mais tu t'endors, barbier ! Allez, barbier ! Tu laisses repousser cette barbe !» Ainsi relancé, le malheureux barbier s'affaire, le dos rond, rasoir au doigt, frissonnant, sans parole. Est venue cependant la minuit. L'homme affalé en ce fauteuil, la tête en allée, en arrière, ne parle quasiment plus, il a fermé les yeux, il a commencé de ronfler. Alors le barbier essaye de reprendre ses idées. S'il échappait, qu'il grimpe au galetas, tire sur soi le verrou. Soudain, il s'est jeté dans l'escalier sans plus de bruit qu'un chat. Il a grimpé les degrés 4 à 4, encore un bond, et il arrive au haut. Mais derrière lui, tout à coup, quel vacarme ! Comme il touche la porte, il se sent pris au vol, attrapé par la patte, arraché et de ce galetas à travers les montées, précipité en bas. « Bon sang du paradis, je suis mort !» L'autre ne lui a pas laissé le loisir de mourir. Il est déjà sur lui. Il l'a repris au collet, l'a secoué comme un pantin et l'a remis à l'ouvrage. Et le savon, le blaireau, le rasoir. Et je savonne, et je rase, et je m'affaire. Et c'est toujours à recommencer, toujours. Ah, la tête me tourne. Je ne sais plus ce que je vois. Je ne vois plus ce que je fais. Je ne fais plus ce que je veux. Du clocher sont tombés tous ces coups de minuit. L'homme, j'en peux plus. La lampe baisse. Barbier, remets de l'huile et rase. Il n'y a plus d'huile ici, seigneur. La lampe va s'éteindre. L'homme s'est mis sur pied, est allé sur la porte. Il a sifflé entre ses doigts. Là-bas, du bois, sont sorties des lumières. Tant de lumières. Et vertes, comme la mauvaise étoile. Elles sont venues dans le moment. C'étaient les yeux de 7 chats noirs. Les yeux éclairaient, plus qu'on n'a jamais vu éclairer œil de chat.
Et ces chats sont entrés, montrant griffes aiguës comme des aiguilles, larges comme des serpettes. Ils sont semis partout. La mèche de la lampe charbonnait et puait, mais les yeux de chat du fond de ce noir faisaient lumière comme le fond au fond de l'enfer, les yeux verts des démons, et rien ne leur échappe. Maintenant, tu vois de quel bois je suis ? Rase et rase, barbier !
Tremblant et blêmissant, le barbier n'a plus su la couleur de ses heures. Il a rasé, rasé au milieu des 7 chats sorciers. Enfin a pointé l'aube grise.
Mais rase une bonne fois pour le coup! Peut-être le poil ne repoussera-t-il plus de jour comme il repousse de nuit.
Et le poil n'a plus repoussé. Et les coqs ont chanté l'aurore. Les 7 chats noirs du bois, tout à coup, n'ont plus été là. Ni l'homme, l'homme sauvage.
Depuis, pas un jour n'est venu sans que le barbier n'ait pensé à cette terrible pratique qui pouvait le soir revenir.
Il s'est fait obligeant pour tous. Ceux du fond des campagnes qui semblent peignés de leurs râteaux, ceux même dont la tête est surchargée de galles qu'elle fait mal au cœur, il les a accueillis. Plus jamais il n'a repris son refrain grognant d'autrefois. Désormais, de tout craint, au service de tous, tout a bien faire son office.
Ah, si chacun en faisait autant, dites, ce serait une belle France! Poil, demi-poil, quart de poil, 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 j'ai passé par l'arrêt du blé. Et voilà mon compte achevé!
Et après les barbiers, nous allons passer aux meuniers. Mon grand-père était meunier à une époque pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il le disait toujours aux paysans qui venaient apporter leur sac de blé, mais prévoyez un sac supplémentaire parce que la farine prend beaucoup de volume et il y a besoin d'un sac supplémentaire. Si vous venez avec 3 sacs de blé, vous repartirez avec 4 sacs de farine. Et imperturbablement, les paysans disaient « Le meunier avant vous, on apportait 3 sacs de blé, on repartait avec 3 sacs de farine. » Et c'est comme ça que bien des meuniers étaient pas très honnêtes. Et voici donc l'histoire de l'un d'entre eux, car ils devaient être nombreux dans ce cas. Mon grand-père a pu le vérifier. Donc il y avait une fois au pays, au vieux temps, où l'on en voulait aux meuniers. Ce pays-là n'était pas le seul sur terre, vous connaissez Bénédicité d'Allanche. Si les meuniers étaient tous sciés en planches, on verrait plus de coquins en France. Toujours est-il que là, on en voulait fort aux meuniers. On l'accusait d'abuser de sa meunerie et de tromper par trop le pauvre monde. On se réunit, on se consulte, on s'échauffe et pour finir, on décide de lui couper le ruisseau. Sans ruisseau, que serait-il ? Parce que c'est un moulin à eau, avec une grande roue qui tourne et qui fait fonctionner les machines à l'intérieur du moulin.
On construisit un barrage, comme quand on veut y pêcher les truites, et qu'on tâche de le mettre à sec. Mais on ne réussit jamais à la sécher. Si au combattit de pierre et de mottes, l'eau passait, finissait toujours par se passer par-dessus. Le barrage, mauvaise idée, il fallait trouver autre chose. On se dit que le mieux serait de faire boire le ruisseau par les ânes. Et on les laissa 3 jours sans eau en mettant du sel dans leur foin, puis on les amena là. Ma foi, ils ont presque vidé le ruisseau. Seulement, ces baudets ont enflé comme des outres et soudainement, ils ont crevé sur place. Tout ce que ceux du pays ont pu imaginer après ça, ça a été d'en vouloir encore plus aux meuniers. Et sans autre histoire, mais qui vous dit qu'on n'en compterait pas davantage sur les notaires et les hommes de loi? Si l'on voulait, reste qu'il faut ben être paplard à ne pas se mettre à dos les gens de la chicane. Voici une autre histoire de meunier. Ça commence par un charbonnier qui marche sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et vous le savez sûrement, mais si vous avez déjà fait le chemin de Saint-Jacques, on rencontre toujours du monde, aujourd'hui encore. Et donc ce charbonnier sur le chemin de Saint-Jacques rencontre donc 2 meuniers et ils décident tous 3 de faire la route ensemble. 2 meuniers, 1 charbonnier, 3 pèlerins qui mangent. Et le chemin était long. Hein, Saint-Jacques, c'est pas tout près. Hein. C'est tout au bout de l'Espagne. Avant d'arriver, les vivres vinrent à leur manquer. À Saint-Jacques, ils trouveraient à remplir la besace. Mais en attendant, hein, les toiles de la besace se touchaient. Ne restait plus au fond que 3 poignées de farine et à peu près 3 noix de beurre. Les 2 meuniers s'entendirent comme larrons en foire. Ils voyaient leurs compagnons, hommes tout unis, tout simples. Ne devait pas être bien difficile à lui jouer le tour. « Il nous faut, propose l'un des meuniers, faire une galette. Seulement, soupira l'autre, elle sera pas grosse. » Et si nous la partagions en 3, reprit le camarade, le morceau ne ferait que nous mettre en appétit. Je sais comme vous en usez, vous, charbonnier, mais nous, meuniers, en pareil cas, nous voulons qu'il y en ait un qui se rassasie, et les compagnons, par bonne pitié, choisissent de se priver. N'est-ce pas le plus beau ? Au vrai, ils avaient décidé de manger le gâteau à eux deux. Ah oui, approuva le premier, nous ne ferions qu'une bouchée de cette galette partagée. « Il faut qu'elle soit pour un seul. »« C'est tout à fait mon sentiment, » déclara l'autre. « Mais, » demanda le charbonnier, « à qui va-t-elle aller ?»« À qui se verra choisi par le ciel ?» répondit le meunier. « C'est-à-dire celui qui, cette nuit, fera le plus beau songe. »« Ah, bonne idée, je le veux ainsi, » approuva aussitôt son camarade, de sorte que le charbonnier n'eut plus grosse chose à dire. La nuit tombait. Tous 3, ils font halte pour la coucher sous quelques chênes. Le charbonnier allume un feu de branches et de bois mort. L'un des meuniers va puiser de l'eau à un ruisseau. L'autre prépare la galette, puis la met à cuire sous la cendre. Cela fait, ils s'enroulent dans leur manteau pour prendre somme, comme il était convenu, puisqu'on ne devait manger la galette qu'après avoir dormi, qu'après avoir songé. Mais l'étape avait été longue.
À peine les meuniers s'étaient-ils allongés sur la bruyère que le sommeil passa les prendre. Les voilà à ronfler tous deux comme sonneurs. Le charbonnier les écoutait ronfler. Et lui, il se sentait en humeur de mieux faire. Un fumet de pain chaud lui venait aux narines. Cette galette si friande, ma foi, tant tournée, il était, lui, homme sans bruit et sans histoire. Il se leva, et si les meuniers s'étaient réveillés à ce moment, il l'aurait vu en train de manger le morceau. Mais il ne les réveilla pas. Et quand il l'eut fait, il se recoucha et s'endormit. Au petit jour, les deux meuniers ouvrent l'œil. Et tout de suite, ils se secouent, aiguillonnés par l'idée de la galette. On dit bien qu'ils dort dîne, mais s'ils avaient dormi, ils n'estimaient pas pour cela avoir dîné. « Écoutez, camarade, fait le premier sans attendre, après cette éclaircie la voix, je vous conte mon rêve. Deux anges m'ont saisi et, tout volant, m'ont enlevé. Ainsi, d'en haut, partait par eux, j'ai vu cette grande affaire de l'enfer. » Le voilà qui se met sur son beau dire. Il commence à parler des temps de poids flambantes et de rivières de braise, d'un fourmillement de démons fourgonnant les damnés de leurs fourches dans les tourbillons des flammes. Et c'était à se demander où il allait chercher tout ça. Mais l'autre aussi, pressé, avait à raconter son rêve. « Ah, moi de même, deux anges m'ont saisi sous les bras, ils m'ont emporté par le milieu des airs. Seulement moi, c'était au-dessus du paradis qu'ils m'ont fait voyager. Et la merveille, quel bocage, quel treille, quel jardin tout en fleurs !» Comme l'autre plus que l'autre, il en dévide. Car à tous deux, il leur tardait de manger la galette. Ce n'était que ruée de roses ou vapeur d'arc-en-ciel, douces senteurs passant et séraphins volant. Dans leur hâte à compter, ils ne s'étaient pas avisés que le charbonnier dormait toujours. Comme si même ses propos en haut ton le berçaient au lieu de l'éveiller. De sorte que les deux meuniers furent contraints de le secouer par l'épaule. « Oh !» cria-t-il, le charbonnier, se dressant en sursaut. « Quoi ? Me tirer d'un si bon somme ?»« Et camarade charbonnier, rappelez-vous nos conventions. À cette heure, il ne s'agit plus de somme, mais de songe. Au plus bon songeur, la galette. »« Ah, je ne sais si j'ai songé, » dit le charbonnier, comme encore étourdi et se frottant les yeux. « Ce que je sais, ah, vous allez bien rire, c'est que vous étiez transportés dans les airs, l'un en enfer, l'autre en paradis, et moi je restais là, tout bête, me disant que je ne vous rêverais jamais plus. Alors en songe ou autrement, je ne sais, vous le saurez, regardant sous la cendre, je me suis levée, Et j'ai mangé la galette. » Et donc voilà comment s'est terminé leur voyage sur Saint-Jacques. Je suppose qu'ils ont continué. Mais voici l'histoire d'un jeune garçon qui voulait justement voyager, partir, faire des voyages. Mais il vivait seul avec sa mère et sa mère tenait à ce qu'il reste avec lui. Mais parce qu'ils avaient été pauvres et qu'ils n'auraient pas d'argent à emporter pour son voyage. « Mais ça fait rien, mère, ça fait rien. J'arriverai bien à me débrouiller. Et d'abord, je n'arrêterai pas de répéter « pas beaucoup, pas beaucoup. » Il s'en alla et marcha, donc un bon bout de temps en répétant sans cesse « pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. » Et il arriva devant un groupe de pêcheurs. « Dieu vous aide !» leur dit-il en guise de salut. « Pas beaucoup, pas beaucoup !» « Comment dis-tu, gamin, pas beaucoup ?» Et quand ils ramenèrent leur filet, il n'y avait vraiment pas beaucoup de poissons dedans. « Alors les pêcheurs t'attrapent un gourdin et lui font dire ce qu'ils pensent sur le malheureux dos du garçon. « Mais alors, qu'est-ce qu'il faut dire alors ?» leur demanda. « Tu dois dire tout plein, tout plein. » « Ah bon, très bien, très bien. » Il marche un bon bout de chemin et tout au long, il répète « tout plein, tout plein, tout plein, tout plein. » et il arrive devant une potence où l'on voit pendre un malheureux coupable.
« Bonjour !» dit le gars. « Tout plein, tout plein, tout plein !»«
Mais qu'est-ce que tu nous lis là, mon gaillard, tout plein, tout plein ? Est-ce que tu voudrais plus de malandrins sur la terre ? N'y en-t-il pas déjà assez comme ça ?»
Sur quoi le bâton entre en jeu et lui fait entrer la leçon par le bas du dos.
« Mais alors qu'est-ce qu'il faut dire ?»«
Que Dieu prenne pitié de la pauvre âme !»
Ah, très bien, très bien. Que Dieu prenne pitié de la pauvre âme, que Dieu prenne pitié de la pauvre âme.
Et avec ce refrain, il continue de faire un bout de chemin et il arrive devant l'écarisseur qui vient d'abattre un vieux cheval.
Bonjour, dit le jeune gars, que Dieu prenne pitié de la pauvre âme.
Que dis-tu là, mécréant ?
S'indigne l'écarisseur en attrapant son grand crochet pour lui frictionner les oreilles et lui apprendre un peu à vivre.
« Mais alors que faut-il dire ?»«
La charogne gît dans sa fosse. »
« Ah, très bien, très bien. » Et il répéta « La charogne gît dans sa fosse, la charogne gît dans sa fosse » en continuant sa route.
Et quand il arriva, il croisa une voiture pleine de gens.
« Bonjour, dit-il, la charogne gît dans sa fosse !»
Et la voiture, pour l'éviter, verse au fossé. Alors le cocher bondit avec son fouet et lui en administre une si bonne ration que c'est en rampant qu'il rentre chez sa mère, ce pauvre malheureux, et lui, de sa vie, n'a plus eu envie de voyager.
Mais vous, chers auditeurs et chères auditrices, Ne soyez pas ainsi et partez en voyage, car les voyages vous apprennent plein de choses et vous ouvrent les yeux.
Chères auditrices et chers auditeurs, merci d'avoir passé ce moment partagé dans le pays des contes. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.